l'occuperait à Paris, au plan d'un drame, à des sujets de tableau, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. Fier comme Artaban, mon bac en poche, je lis l'éducation sentimentale, crânement vautrée sur les banquettes du RER, ligne A, direction Boissy-Saint-Léger. Je vais moi aussi à Nogent pour annoncer à mes parents que j'ai trouvé une piaule à Paris et que je vais partir. Je m'émerveille du fait que depuis 1840, rien n'ait à ce point changé. Comme Frédéric Moreau, je veux bouffer le monde et les demi-mondaines me font fantasmer. Je rêve à mon petit appart douillet, aux filles que je m'y taperai, au fric que je vais gagner, à la caisse que je me paierai. Mais par-dessus tout, je suis convaincu que le bonheur mérité par l'excellence de mon âme est à la fois immense et imminent. J'ai 18 ans, j'entre en fac, je suis un cador. J'aurais dû me méfier de l'engouement que j'avais pour ce roman. Je le relis aujourd'hui avec un œil neuf, et je m'aperçois qu'il s'agit avant tout de l'histoire d'un échec, de la faillite d'une vie. Une fade succession d'avortements et d'impasses. Est-ce le contexte de la prison qui me rend clairvoyant? Ma vie commençait mal, car elle commençait sans passion. Doué en rien et bon à tout, je m'étais inscrit après le bac sur les conseils de mon père dans ce qui était d'abord une fac de droite avant d'être une fac de droit.
Tu verras, il n'y a rien de mieux que de fréquenter les fachos pour qu'on oublie d'où vient ton père.
État des choses qu'il n'était jamais parvenu à faire oublier, le pauvre, même après 30 ans à singer la France réelle au cercle interallié, entouré de bourgeois qui l'ont toujours méprisé. Les Juifs, c'est pas qu'on les aime pas, mais... disait la chanson. Et puis ce fut le premier jour de cours. J'étais trop jeune pour le formuler avec précision, mais je peux dire qu'à l'époque, j'avais déjà flairé comme une arnaque, un mauvais présage. Un gros thésard joufflu et vieille France, répondant au nom de Jean-Marie Guillemet, fit l'appel.
Brunois. Ah! Cela a-t-il un rapport avec monsieur le bâtonnier Brunois? Ah, c'est votre grand-père. Ripper? Ah, le doyen Ripper est votre oncle. Ah.
Et ainsi de suite. Sacré guillemets. Je le voyais comme si c'était hier, énumérer des noms de sénateurs, de conseillers à la cour de cassation, de parlementaires. On aurait dit un biafré devant une pâtisserie. Millefeuille, Saint-Honoré, Paris-Brest. Il en avait plein la bouche, le Guillemet. Sa fleur est bon, la pierre de taille, avenue du Quesne, la chasse en Sologne, les vacances sous la pluie à lire Balzac, le bridge et les jésuites. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi mon père était à côté de la plaque. Le vrai bourgeois ne cherche pas le soleil sur la Côte d'Azur. Il vit à Paris sous les moulures, avec un caveau dans une province pluvieuse. Il appartient à la classe dirigeante depuis au moins 5 générations et ne considère mon existence que parce qu'il a les idées larges. Il ne s'appelle définitivement pas Christophe Leibowitz. Guillemet, ce premier jour de cours, n'a même pas prononcé mon nom. Je crois que c'était simplement par humanisme, car il m'a très bien noté toute l'année. Et puis j'ai fait mon droit, comme disait Flaubert, et je suis devenu avocat, mais le bonheur mérité par l'excellence de mon âme s'éloignait pas à pas jusqu'à en devenir inaccessible. Je n'avais toujours ni fric, ni caisse, ni gonzesse, mais surtout... j'avais perdu l'espoir. Mes études m'avaient fait prendre conscience d'un signe que je n'avais jamais remarqué. La marque de la petite bourgeoisie parvenue qui était là, bien en évidence sur mon front, depuis le premier jour de...